RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Et oui, jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Lucie Bacon ce soir et Pierre Rondeau qui nous rejoint. Salut Pierre.
Bonsoir.
Un bouquin, le foot va-t-il exploser? Plaidoyer pour une régulation du système économique du football. Je montre le livre. C'est pas très épais, ça se lit
très rapidement.
C'est efficace.
Et Pierre,
on va en parler dans quelques instants.
Panini Radio.
Merci à les collecteurs.
Collecteurs.
Je pense qu'on en reverra. Parce que c'est juste pour te montrer.
Deux, trois petites infos.
Je me suis souvenu qu'effectivement elle était.
Commission de discipline ce soir, ça vient de tomber avant qu'on parle d'économie. Coutadeur, 7 matchs de suspension. Ferme pour l'Ajaxien.
Ouais,
son collègue,
matchs, ouais.
Son collègue qui a pris un rouge également, la Sebaini a pris lui 2 matchs. Sainati a pris 2 matchs. Mateta lui a pris 1 match. Attends. Oui, 1 match pour lui, 3 pour Bain qui avait rappelez-vous pris le bras de l'arbitre. Et puis le cas Pantaloni a été mis en délibéré, donc je pense qu'il va prendre cher Pantaloni pour être rentré sur le terrain.
Ça, ouais.
Donc pour l'instant on ne sait pas. Voilà. Sinon, deux, trois petites infos juste. Rolando, rupture de tendon d'Achille. Soulignons quand même.
Rupture du tendon.
Ouais. C'est marrant parce que on a vu celle de Koscielny, qui s'est écroulée en pleurs et tout. Puis Rolando, lui, il est sorti en checkant avec le gars. Peut-être pas le même rapport à la douleur. En tout cas, rupture de tendon d'Achille. Il est en fin de contrat en juin. Et là, l'OM réfléchit sérieusement, vu qu'il va pas pouvoir jouer au foot pendant 6 mois, à le prolonger 1 an. Ce qui, je trouve assez classe, finalement, parce qu'il pourrait dire, bon, on s'en fout, t'es en fin de contrat, tu te démerdes.
C'est là, il va falloir qu'il recrute défense central.
Et là,
parce qu'Abdenour, c'est, je pense que
là,
on peut
Rolando
considérer que c'est un peu cramé.
2019,
Rolando, hop, donc l'OM va devoir prendre un, à moins qu'il considère que Camara peut jouer ou que Gustavo recule définitivement.
Doria, il revient pas.
Qui ça?
Doria.
Qui est Doria?
De prêt, non?
Ah oui. Doria était en prêt?
Pas de nouvelles. Non, je crois qu'il était vendu. Doria était vendu. Doria.
Ah oui, ils avaient fait une liquidation des stocks avec lui, non?
Et puis des nouvelles de Ronaldinho pour vous donner ses dernières aventures.
Ah oui, c'est drôle. Ça.
Il va se marier avec deux femmes différentes le même jour. Donc là, dans les semaines qui viennent.
Mais est-ce que attends, parce que
lui,
ça,
c'est un génie jusqu'au bout.
Non, mais attends, on n'est pas sûr que
jusqu'au bout, c'est un génie.
Est-ce que t'es sûr que
franchement,
est-ce que t'es sûr que la loi autorise ça?
Oui. Alors, je vous le raconte.
Et lui, il l'a fait. On a tous rêvé.
Dossier complet. Dossier complet sur rmcsport.fr. En fait, il était avec Priscilla depuis 2012, puis il a rencontré Béatrice.
Voilà.
Et il s'est dit, mais pourquoi choisir?
Bah, bien sûr.
Donc, Priscilla et Béatrice se sont rencontrées, et il va se marier avec les deux. Et il a dit, voilà, il n'y aura pas de différence. Même bague,
comment il va,
comment il fait, même bague, même cadeau.
Il fait semaine et week-end. Voilà. Ils dorment tous dans le même lit.
Alors,
ou,
au Brésil, il pourra pas se marier religieusement. Mais, au Brésil, il y a ce qu'on appelle l'union polyaffective.
Et on va lui remettre.
Qui lui permet de le faire.
On va lui remettre un ballon d'or.
Donc c'est pas un vrai mariage.
On va lui remettre un ballon d'or.
Un vrai mariage, il peut pas. C'est un truc, un statut particulier.
Voilà. Une union polyaffective.
La polygamie n'existe pas dans tous les pays. C'est d'ailleurs minoritaire dans le monde quand même.
Quel génie.
Un magicien. C'est les dernières aventures de...
Ça te plaît, ça?
Bah, magicien.
Bah, si ça te plaît.
Un magicien du dribble.
Pense-en à ta femme, ça te plaît, ta beauté.
Bah, écoute. Moi, je l'ai fait, mais à des périodes différentes. Tu vois. Donc c'est pas...
Bon. On va revenir sur un sujet un peu plus terre à terre.
Voilà, putain.
Là, on, ouais.
Putain, Pierre, tu te rends compte qu'avec toi, on rigole jamais.
Mais ouais, je suis désolé.
Sérieux, fais quelque chose.
Moi, je vais venir faire un truc drôle.
Tu viens sur des plans cul, maintenant, on a Pierre.
Je veux pas faire un truc le business, mais du cul.
Sur pour toi, génial, bien sûr.
Business, mais du cul.
Bon, allez. Pierre Rondeau, économiste du sport. Alors, ton petit bouquin, le foot va-t-il exploser? Bon, évidemment, quand tu poses la question, c'est qu'il y a une partie de la réponse à l'intérieur. C'est que toi, tu prévois qu'il y ait un de ces quatre où la bulle pourrait bien exploser.
Pourrait bien, attention, je ne
sais
pas.
Ça fait quand même quelques années qu'on nous le dit, mon petit Pierre.
Bien sûr, non mais là-dessus, je suis entièrement d'accord et je voudrais pas jouer les eaux de mauvais augure et dire que ça va arriver, ça va exploser, ça va être la fin du monde.
Ça va, comme qui disait, ça va péter.
Ça va péter.
C'était qui au Guignol, le personnage?
Ah, allez, moi, tu sais, Gilbert, bien sûr.
Non, bah,
bien sûr, ça va péter, ça va
Besançon.
Péter. Mais non, enfin, syndicaliste là.
Bon, c'est pas grave, pardon, Pierre.
Arlette Laguier.
Non.
Martinez?
Mais non, mais Martinez à l'époque des Guignols, il existait pas.
Je suis sûr que les Guignols existent toujours. Hein.
Ouais.
Ah, même si on regarde plus.
Ah non, je savais pas que ça existait encore. Mais à l'époque, on regardait, je veux dire. Bon, ouais, c'est pas grave.
À l'époque, c'était drôle.
Barré si tu perds la
tête. Bref, alors vas-y.
Non, alors c'est dire simplement qu'il y a un risque. Je ne dis pas que ça va arriver. J'ai pas envie que ça arrive, justement. J'ai pu être taxé à droite à gauche de quelqu'un qui, espèce de gauchiste, qui allait annoncer la fin du foot.
Ah. Moi, c'est ce que sûr je veux que dire... c'est pas un compliment, un gauchiste.
Ouais.
Enfin, je sais pas, certaines personnes.
Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que
Jérôme est un gauchiste, par exemple.
Il y a des risques.
Exactement. Pur gauchiste.
Donc, c'est pas une insulte. Ouais. Donc, comme il y a des risques que ça puisse imploser, en tout cas, qu'il y a des prémices de tensions qui peuvent exister sur le marché du football, sur le secteur économique du football, nous, ce qu'on a voulu mettre en place avec mon co-auteur Richard Bouygues, c'est des solutions, non pas pour contraindre, transformer, non, bouleverser le football.
Ton collègue.
Rien à voir.
Voilà. Ça serait pas pareil en plus.
Non. Donc, non pas pour contrôler ou planifier le marché footballistique, mais pour le réguler. En gros, pour corriger les défaillances qu'a créé le football professionnel.
Alors, quelles sont vos propositions ?
Il y a plein de choses qu'on détaille dans le livre, notamment au-delà du cadre risque d'implosion lié à la dette sportive, lié au droit TV qui augmente et autres. On met aussi en avant, par exemple, les inégalités très importantes dans le football, la précarité aussi très importante dans le football, le manque de moyens pour la reconversion des joueurs, le manque de soutien physique et psychologique pour les joueurs. On montre qu'il y a un taux de dépression extrêmement élevé dans le milieu, au-delà donc du cadre vraiment économique.
Taux de chômage moyen dans le foot français, 15%. C'est ce que...
Taux de dépression moyen dans le football international, 38%. La moyenne mondiale, c'est 13%.
Des joueurs ou après carrière?
Alors, d'après la FIFPro, 38% des joueurs ont connu, connaissent ou vont connaître une période de grande dépression.
Ah, c'est intéressant, ça. Mmh. Enfin, c'est intéressant.
C'est triste.
Intéressant à savoir, parce que c'est pas quelque chose qui est comme ça.
Voilà, c'est aussi un tabou qui fait partie du football, de croire que les footballeurs n'ont pas à déprimer et non pas à pleurer de leur situation, leur statut.
Ça va toi, Jérôme?
Pour l'instant, ça va. Par moments, c'est difficile avec Daniel, mais ça va. Mais c'est Daniel, hein, le responsable, hein. C'est pas le football, là.
Donc il y a ce niveau de dépression, il y a aussi le taux de chômage, il y a aussi les très fortes inégalités qui existent dans le domaine. Quand tu sais que 45% des joueurs de foot sur Terre, un peu en France, mais 45% des joueurs de foot, d'après la FIFPro, gagnent moins de $1,000 par mois. Alors qu'on a tous en tête les salaires des Neymar, des Mbappé et autres. Il y a aussi de très nombreux footballeurs qui gagnent très mal leur vie. Il y a un taux de reconversion qui est assez catastrophique. On en avance qu'entre 20 et 40% des joueurs de foot sont ruinés 5 ans après leur carrière. Donc on est très loin de l'image idyllique des rentiers milliardaires après leur carrière. Il y en a, heureusement qu'il y en a, mais c'est pas le cas pour la majorité. Donc au-delà du cadre vraiment économique, macroéconomique sur la bulle qui va exploser, ce qu'on met aussi en avant dans le bouquin, c'est la situation précaire et précarisante des footballeurs. C'est pas, nous vraiment, on voulait sortir, parce qu'en gros, c'est ce qu'on dit dans l'introduction, quand on a commencé à l'écrire, c'était après Neymar au PSG, je me souviens dans la presse, tout le monde était là, les footballeurs sont trop payés, c'est des espèces de racailles milliardaires en short qui font que taper dans un ballon. Il y avait un mépris qu'il y avait sur les footballeurs en disant que c'est que des gens milliardaires.
Bah, à chaque fois qu'il y a un gros transfert.
À chaque fois, on va dire, voilà.
D'un coup, des tonnes d'oseilles, ça va sur tout le monde.
Exactement. On disait, voilà, à chaque fois, les footballeurs, c'est tous des milliardaires débiles, hein, pour faire simple. Et ce qu'on a voulu faire.
On a pris Jérôme pour prouver que c'était pas vrai.
Exactement. Alors, malheureusement, je t'ai pas cité, mais j'aurais pu, hein.
J'aurais dû.
Dans les milliardaires débiles?
J'aurais dû, excuse-moi.
je suis un peu dans tous les secteurs, hein.
Et en gros, l'idée, c'est qu'on voulait rétablir une certaine forme de réalité. On voulait dire que le football, ce n'est pas essentiellement les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Ronaldo payés plusieurs millions d'euros.
Ce sont les arbres qui cachent la forêt.
Exactement, la très grosse majorité. On le cite dans le livre, et moi, il y a un chiffre qui je trouve hallucinant. En Ligue 1, 10%, les 10% les plus riches de Ligue 1 s'accaparent 48% de l'ensemble des salaires. Ouais. C'est-à-dire que 90% des joueurs de Ligue 1 ne touchent que la moitié de l'ensemble des salaires. Donc il y a des inégalités extrêmement importantes.
Alors au-delà de ces constats qui sont très intéressants, si on prend le premier dossier qui est celui de la fameuse bulle spéculative, en tout cas de la crainte que ça explose parce que il y a visiblement pas ou pas assez de régulation. On en est où, parce que finalement on lit ces jours-ci que à à nouveau, il y a volonté de durcir le fair play financier. Est-ce que tout ça, ça va pas dans le bon sens? Et donc, finalement, ça pourrait te réconforter par rapport aux craintes que tu as.
Totalement, je suis même très satisfait.
Est-ce que tu trouves que ça, c'est bien?
Je sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure en amont de l'émission, mais c'est tombé aujourd'hui que le comité exécutif de l'UEFA a validé la nouvelle version du fair play financier et qu'il y a un renforcement.
Alors c'est quoi tu peux expliquer? Parce alors, à chaque fois qu'on parle de ça, tout le monde a peur. Parce qu'on dit, alors tiens, bah d'ailleurs, on aurait dû commencer par là. Parce que c'est vrai que souvent on a peur, on dit, ouais, quand on parle trop de ce genre de choses-là, les gens comprennent pas tout. Alors que je trouve que les gens, alors c'est toujours difficile de dire les gens, on sait pas bien, mais qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus grand pour les questions de business autour du foot. D'ailleurs, t'es pas le seul là, mais ce mois-ci, je crois qu'il y a 4 bouquins sur ça qui sortent. Ouais. Je sais pas si vous mettez d'accord.
On se connaît mutuellement, mais on s'est pas mis d'accord pour écrire.
C'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour le business.
Bien sûr.
D'ailleurs, toutes les brèves ou les articles sur le fair play financier, est-ce qu'ils vont être sanctionnés? Bah, on a beaucoup parlé du PSG, mais l'OM a dû également se défendre sur cette question-là. Donc, ce sont des vraies questions. Donc, n'ayons pas peur en disant, est-ce que ça intéresse les gens? Ils vont nous lâcher parce que c'est compliqué. Essaye de, nous expliquer.
Alors, l'intérêt, ce qui est vraiment super intéressant à ce niveau-là, au niveau du fair play financier, c'est que c'est vraiment, ça part d'une volonté de l'Europe et de la Commission européenne d'imposer, d'avoir demandé à l'UEFA d'imposer une régulation des finances des clubs de football.
Alors, c'est quoi le
nouveau fair play financier, ce fair play financier 2.0. Moi, j'ai retenu 4 points importants à l'écoute et à la lecture de la conférence de presse. Déjà, la volonté de transparence. Avant le fair play financier, c'était a posteriori les sanctions. C'était un an après le début du mercato, tu pouvais entamer des sanctions contre le club et contre
son
mercato.
Que tu disais, il a trop dépensé.
Mais de l'année d'avant, de l'année T-1, si tu veux. Là, en gros, c'est le PSG qui va peut-être avoir des sanctions pour son mercato de l'été dernier. C'est un an après. Ouais. Là, le nouveau fair play financier a la volonté de pouvoir vraiment sanctionner
sanctions
en temps réel.
Genre, mais quoi? C'est-à-dire, comment ils interviennent pour dire, vous dépensez trop?
Les clubs, on va avoir l'obligation de mettre en ligne l'ensemble de leurs comptes. Ce qui fait qu'on aura à l'instant T en direct, de manière instantanée.
Ça, c'est très positif, ça.
Mais entièrement.
Et il paraît qu'on va même pouvoir aller regarder les commissions des agents.
Et il y aura ça aussi.
Il y a quelques agents des agents. On va faire la gueule.
On verra les dépenses directes.
Mais oui, totalement. On va savoir les commissions.
Donc on pourra sanctionner à temps réel.
Genre Mendes et le pizzaiolo, on va savoir les coms qu'ils prennent.
On saura.
Alors après,
je te dis pas qu'il y aura un risque de...
C'est drôle.
Et donc, qu'en temps réel, ce soit équilibré ou il y a trois mois pour réguler.
Ensuite, il y a aussi la question du rééquilibre. Ouais. Donc, en temps réel, on connaît déjà le fair play financier. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez gagné. Avec une autorisation de 30 millions de déficit sur 3 ans, si le projet sportif est justifié. Ça, c'est maintenu. Le troisième point qui, à mon sens, me semble le plus intéressant, c'est un plafonnement du déficit entre les achats de joueurs et les dépenses de joueurs de 100 millions d'euros. C'est-à-dire que tu peux dépenser... 100 millions. Beaucoup d'argent, et tu peux pas dépenser plus de 100 millions d'euros d'argent si t'as pas vendu à côté. Il faut que tu vendes à côté avant de pouvoir dépenser 100 millions d'euros. Donc là, par exemple, avec ça, le PSG ne pourra pas dépenser 222 millions d'euros pour Neymar.
Oui, exactement.
Ou alors, aura l'obligation de vendre pour
222
la barrière,
plus 180 d'Mbappé.
Exactement. Pour pouvoir récupérer la barrière des 100 millions d'euros. Et le quatrième point qui, moi, me semble le plus intéressant, le plus important, qui apparaît vraiment en fin de conférence de presse, c'est l'annonce de l'UEFA de renégocier directement auprès de la Commission européenne et de l'Union européenne l'arrêt Bosman.
Ah ouais, c'est-à-dire
une demande de négociation pour éviter la fuite des joueurs locaux nationaux vers les pays étrangers. Alors non pas le rétablissement des quotas, mais en tout cas une rediscussion des modalités de l'arrêt Bosman. Ah, et bon, ça me semble très intéressant.
Ça fait quand même d'un coup plusieurs volontés de régulation.
Exactement.
Qui sont claires et nettes. Hein.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ils font ça suite. Alors là, on va parle plus du tout du bouquin, mais c'est très intéressant. Ils font ça suite à la volonté de la FIFA de créer la Coupe du Monde des clubs. L'UEFA a très mal pris que la FIFA se mette devant eux et crée une compétition alternative avec des clubs qui rapporterait plus d'argent que la Ligue des Champions. La dotation pour les clubs en Coupe du Monde, ça serait 1,9 milliard pour 12 clubs européens. La dotation pour la Ligue des Champions, c'est 1,3 milliard pour 32 clubs européens.
Oui, parce que ce serait, il y a un gros investisseur privé qui prend beaucoup d'argent sur cette compétition. Hein,
donc
bon, ça.
L'UEFA aussi, partant de là, a voulu finalement se dire, il faut que je puisse rétablir une certaine équité sportive et intensité compétitive pour rétablir une forme de suspense dans les compétitions européennes.
Alors, c'est pratiquement une sorte d'autorégulation, finalement. Le milieu s'autorégule.
Bien sûr, mais ils ont très bien compris que le risque, et c'est ce que je dis dans le bouquin.
Dès que ça a débordé et il y a eu intervention et mise en place du fair play financier, la FIFA veut marcher sur les plates-bandes de l'UEFA, l'UEFA réagit. C'est plutôt sain, ça.
C'est très sain et c'est même très intelligent de leur part. Ils ont très bien compris que le risque, si on laisse faire une espèce de dérégulation totale et absolue, on aboutisse à ces cas de figure de précarité, de défaillance, d'inégalité et de risque d'implosion. Donc ils ont parfaitement compris la nécessité de s'autoréguler.
Bah, ça va pas péter alors.
Alors messieurs Rondeau et Riolo, là, vous qui n'aimez pas les gauchistes, vous êtes pour la régulation.
Moi j'adore les gauchistes.
Non mais lui oui. C'est pour ça que je le chambrais.
Vous êtes un peu schizophrène quand même.
Je le chambrais exprès, voyons.
Et ça rentre en...
Tu bossais à la mairie, non? À la mairie de Paris,
j'ai bossé directement pour la campagne de Benoît Hamon.
Oh là 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 là. Tu te rends compte?
Ah oui.
Ah oui.
Ouais, quand même.
Daniel, tu lui as serré la main?
C'est un ami, Pierre. Il faut toujours... je ne regarde pas ce genre de choses, moi, tu sais.
Vrai, hein. On a eu un beau
succès. Fonctionné.
Un beau succès, une belle réussite.
Une super réussite.
Mais alors, Pierre,
oui, bon, c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé.
J'ai apporté
Mais alors, est-ce que, tel Jacques Attali à la grande époque, tu as des propositions concrètes à faire au monde du football pour justement éviter les dérives?
Jacques Attali, si quelqu'un se souvient d'une de ses propositions qui a fonctionné.
Ah si, les taxis. Vous voulez déréguler les taxis.
Qui a fonctionné.
Ça avait beaucoup plu.
Ben oui.
C'est vrai.
Bon bref, revenons au foot.
Alors, c'est ce qui avait mis en place, en tout cas, où les négociations ont commencé à être entamées avec le nouveau fair play financier. Nous, on réfléchit au rétablissement des quotas. Les quotas nationaux, le 5+6, le fameux 5+6 de Blatter, avec l'obligation d'avoir au moins 6 joueurs formés, soit localement, soit à l'échelle du pays, mais en tout cas protéger les joueurs nationaux.
Une idée qu'on aime.
Une idée qu'on adore. Mmh. On a alors la fameuse qui est connue mais aujourd'hui, enfin connue ou pas, je sais pas, mais en tout cas qui a beaucoup fait parler d'elle l'été dernier, c'est la contribution Coubertin. La contribution Coubertin, donc la fusion de Coubertin, Pierre de Coubertin et James Tobin qui est un économiste, c'est une taxation sur l'ensemble des transferts internationaux. Alors c'est du Ruffin un petit peu, mais à échelle mondiale. Et c'est pas du 5-15% à la Ruffin, c'est du 1%.
Bah alors à quoi servirait cette taxe?
Alors c'est pour...
je crois que t'allais dire à quoi sert François Ruffin.
J'aurais pu se poser la question.
À quoi servirait cette taxe?
Alors à la fois, donc on mêle à la fois cette contribution Coubertin et je vais le dire, et ce que j'appelle aussi la taxe sur le luxe avec un salarié cap souple. Donc c'est-à-dire avec un plafond symbolique, mais dès lors qu'on le dépasse, on paierait une taxe sur le salaire dépassé. Et donc c'est deux choses-là.
Comme au Monopoly, taxe de luxe. Exact. Entre Champs-Élysées, rue de la Paix et la taxe de luxe.
Et ces deux choses-là permettraient d'abonder un fonds de développement et un fonds de soutien pour la protection des sportifs et des sportives, pour leur aide à la reconversion, leur aide à la formation, l'aide au football amateur et au sport amateur.
Tout ça, c'est très bien. Ce sont de bonnes mesures.
Bien sûr.
On aime ce genre de propositions. Mmh. Hein. Non, mais c'est bien que le foot qui est
quand même... Sauf que c'est un peu utopique, excusez-moi. Je veux dire, c'est, alors, ok, très bien.
Bah, enfin, utopique.
Les clubs, ils vont te dire, ok, allez, t'es gentil avec tes propositions.
Il faut aussi, à mon sens, au-delà du cadre de footballeur,
qui peut décider des choses comme ça? C'est la FIFA.
Alors, à ce niveau-là, donc, c'est vrai que politiquement, on nous a posé des questions, mais attendez, à échelle française, ça marchera jamais. Il faut au moins une action européenne, voire mondiale. Il y a déjà, alors là, on part un peu de politique, mais il y a déjà des volontés politiques pour les élections européennes de 2019. Donc, il y a déjà des choses concrètes qui pourront être proposées pour 2019,
c'est l'élection européenne. Bon, toi, t'as bossé un peu dans le monde politique. Les politiques, quand ils parlent de foot, c'est toujours pour essayer de surtaxer
mais là, c'est pas une taxation. Attention, là,
oui, mais j'ai bien compris. Là, toi, tu apportes des propositions qui sont différentes, puisqu'ils vont dans une logique de protection du footballeur. Ça, dans le milieu politique, excuse-moi, mais je crois pas avoir entendu ça au préalable.
Et là, c'est une nouveauté. On est là pour représenter la nouvelle génération, le nouveau monde.
Bravo,
un autre
Pierre.
Nouveau monde.
Voilà. On n'a pas une idée de taxe à 75%.
Non, c'est mais vraiment, c'est pas
ça. Flinguer,
Oui. On est même aussi pour l'harmonisation fiscale, si tu veux, on le dit dans le livre, on est pour que tous les pays d'Europe, s'ils se font concurrence entre eux, payent le même taux d'imposition. C'est pas normal que derrière tu...
Ça, c'est le grand combat de Cayazo.
Mais c'est aussi mon grand combat, c'est pas normal qu'à l'échelle européenne...
Après, je rejoins ce que disait Gilbert tout à l'heure, ça va quand même, pour l'instant, ça semble utopique d'aller mettre d'accord les...
Ça semble totalement utopique, bien sûr.
C'est même pas utopique, ça semble impossible d'aller mettre tous les pays d'accord pour une taxation équivalente, ça j'y crois pas trop. Vraiment, tout ce qui est le contrôle par le biais du fair play financier, tout ça... Ça, je trouve que c'est plutôt faisable et très intéressant.
Alors, il y a quand même la luxury tax, là.
La taxe sur le luxe, donc
La taxe de luxe dont on a parlé.
En gros, si tu veux, on considère que si le salaire moyen en Ligue 1, c'est 46 000 euros par mois, serait-il normal qu'un joueur de foot soit payé 10 fois plus? ça peut être normal, ça peut être justifié économiquement, mais on dit simplement que à partir de 460 000 euros par mois, dès lors que tu payes un joueur plus cher, tu paieras une taxe au prorata de cette différence. Et que s'il paye 470 000 euros, il paiera une taxe de 10 000 euros. Enfin, sur 10 000 euros.
Le salary cap, c'est aussi un serpent de mer. On en parle
non,
depuis...
Ça ne peut voir
le on, jour on en parle depuis des années, au
que
final.
Que si tu as une compétition complètement homogène fermée.
Si tu... Alors, sinon, tu peux tendre à faire une super ligue européenne, une ligue fermée.
Ça.
Mais...
ça, tu peux pas ça.
Alors, c'est ce qu'on dit à la fin, et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout des gens qui voulant imposer des choses et dire que tout, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez forcément tort. On est là pour le débat. On avait d'ailleurs créé pour le livre un observatoire du sport à la Fondation Jaurès, et on est là pour émettre des propositions. Elles peuvent être justes, elles peuvent être mauvaises, on est là pour débattre. Et c'est vrai que au fil du temps, je me mets moi aussi à évoluer, et c'est vrai que j'ai conscience comme toi Daniel que le salary cap à échelle européenne tel que c'est fait aujourd'hui serait un peu inapplicable. Ouais. Donc il faut aussi réfléchir à autre chose. Et l'écaille du foot avec qui on a travaillé aussi, eux aussi ont émis des propositions, d'autres personnes ont émis des propositions, et nous ce qu'on voulait avec ce bouquin et avec la suite du débat, c'est qu'il y a vraiment des réflexions. On ne cherche pas du tout de manière très sectaire à imposer c'est ça et c'est la seule voie possible. On est vraiment pour débattre.
Alors est-ce que vous êtes entendu ailleurs qu'ici dans l'after? Est-ce que demain il y a possibilité de voir la Ligue, la Fédé, le ministère des Sports, la FIFA, l'UEFA?
Pour vous mettre dans la confidence, parce que je sais qu'on est entre nous actuellement, l'UNFP a reçu le livre et l'a apprécié. Des gens à l'UEFA que je connaissais d'avant, qui ont travaillé avec le président de la République de l'époque, François Hollande, ont reçu le bouquin et on l'ont apprécié. Politiquement,
ça c'est plus vraiment utile. Ça.
Ouais.
Ouais.
Merci parce que maintenant ils sont ailleurs. C'est vrai.
Ouais, mais maintenant ils sont plus vraiment dans le domaine. Ouais.
Parce qu'elle est pragmatique, cette fois-ci, t'as vu ça un peu quand même.
Mais en tout cas, voilà, il y a des, au-delà des, de l'aspect médiatique, il y a aussi eu des conséquences. Diplomatique, géopolitique, politique. Il y a d'autres personnes que les médias qui ont eu le livre. La Fondation Jaurès, avec qui on a publié le bouquin, a envoyé 500 exemplaires à l'Assemblée. Donc, les parlementaires français ont reçu le livre. Qu'ils aiment ou pas le football, qu'ils en débattent ou pas, peu importe, ils ont le bouquin.
Bon, bah, c'est un travail de recherche et de proposition qui est intéressant.
Ouais. Et j'ai évidemment m'a répondu, c'était Marc Blondel au Guignol. Ça va péter, ça va péter, tu te souviens, Marc Blondel.
Bah, pas
syndicaliste, force ouvrière,
tout
Marc Blondel.
Voilà. Qui a disparu depuis d'ailleurs, le pauvre.
Ah oui, ça oui. On disparaît.
Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le bouquin « Le foot va-t-il exploser ?» aux éditions de l'Aube avec la Fondation Jean-Jaurès.
Effectivement, beaucoup de... C'est incroyable, dans le mois de mai, le nombre de livres...
Bah, le nombre de livres, tout court.
C'est pour la Coupe du Monde.
Ouais, mais sur ce sujet-là, il y a 10 ans, il y en avait...
Quasiment,
ça intéresse aussi beaucoup les supporters, hein, aux instants du mercato. Les trésors des clubs, ça intéresse beaucoup.
Il y a un mec qui sort les cartes. T'avais les gens qui... sans forcément comprendre les mécanismes du fair play financier, faisaient leur petit calcul. Si on vend un tel, si on vend un tel, et ouais, bien sûr.
Pierre, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Est-ce que tu te souviens de l'acteur Kevin Bacon?
Ouais.
C'était son grand frère.
Toi, c'est Bacon et lui, c'est Bacon.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ça monte d'un niveau, ça monte d'un cran. C'est-à-dire qu'entre 23h et minuit,
c'est là qu'on est au top. C'est le pire.
Voilà. C'est là c'est le pire. Qu'en termes d'humour,
on est au-dessus. Comme on m'empêchait de donner les chiffres du championnat d'Angleterre, d'Allemagne et d'Espagne sur les écarts entre le quatrième et les autres.
Alors tu peux les donner maintenant, t'as encore le temps.
Non, on n'a pas le temps. Il paraît qu'on n'a pas le temps. Moi, je les donne pas.
Exactement, parce qu'on va parler football et cinéma dans quelques instants. À tout de suite. Merci Pierre. À très vite dans l'after. Et à tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, c'est l'after sur RMC, sur BFM Sport, Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten, Lucie Bacon toujours avec nous, et on reçoit tout de suite Simon Tanguy. Pourquoi? Parce que le festival La Lucarne revient, RMC est partenaire. Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, juste avant qu'on parle du festival, petite info, est-ce que vous connaissez le dénommé AG Areideu? C'est le coach du Danemark.
Il
a défoncé l'équipe de France aujourd'hui, mais tranquille. Donc il dit, de toute façon, moi je crois pas en cette équipe. Que je sois damné si nous ne donnons pas du fil à retordre à cette équipe qui franchement n'a rien de spécial, dit le sélectionneur du Danemark. Il dit bon...
C'est rare, les mecs qui parlent comme ça.
Il dit, Kanté, bon, il a pas le profil d'un leader. Pogba, bah, lui, un jour bien, un jour mal. Un jour cheveux blancs, un jour cheveux bleus. Bon, on verra. Donc en gros, il dit, il a pas peur.
Est-ce que tu vois qu'il a dit ça un peu pour les énerver? Tu crois qu'il y avait une petite stratégie ou pas? Il s'est juste lâché, le mec.
À mon avis, il y a de l'humour. Attends, parce qu'il parle des cheveux de Pogba et tout.
Bah, quand on voit sa tronche, il a pas trop l'air de rire. Hein.
Oui, mais... non, mais peut-être en photo comme ça. Bah, toi, tu le prends Danois en train de coacher. Pour être non, mais n'importe quoi, Gilbert. Tu prends une photo, il est en train de coacher.
Autant que le Hollandais.
Je pense qu'il est blagueur, le... chambreur, le Danois.
Peut-être. Bon, en tout cas, voilà. On va voir si Didier Deschamps va répondre. Mais comme il nous l'a dit la dernière fois, il ne parle pas tous les langues, tout le monde en étranger, donc je sais pas comment
je répondrai de la même façon.
Pas le Danois.
T'aurais fait quoi, toi?
Bah, je répondrai de la même façon, en le chambrant aussi.
Tu diras le Danemark depuis 92.
Franchement,
ils ont rien fait.
Voilà, et même avant.
Depuis
même
que le Bison et le Kier Larsen a arrêté, il n'y a plus rien.
Exactement.
Voilà. Et puis c'est pas avec Braithwaite que...
Braithwaite.
Historiquement, le Danemark a quand même souvent, comment c'était l'expression? Du donner du fil à retordre, c'est
donner
ça
du fil à retordre, c'est vrai.
84, ça avait été très très dur. Le,
ça s'est fini par un coup de boule de manière
le 1-0.
2002. Ah, 2002, magnifique.
En 98, il y a aussi, mais le match n'était pas une balade, 2-1. Quoi.
Oui, mais bon, l'équipe, elle était...
Oui, bien sûr.
Non, il servait à rien, ça.
Oui. Non, mais souvent...
Bon bref.
Non mais là ils
ont. Bon, question au premier de l'Utah. Alors déjà rappelons le concept parce que ça se passe à Paris.
Exactement.
Alors, si vous êtes partout en France et que vous voulez voir les plus beaux documentaires de l'année de foot, 100% foot.
100% foot. 100% que foot. Ça, c'est le seul festival de cinéma en France consacré uniquement au football. Ouais.
C'est la sixième édition maintenant.
C'est la sixième édition.
Quels sont les moi je me souviens, j'étais venu à la première édition. On se connaît depuis très longtemps. Quelles sont les évolutions quand vous avez démarré? Je me souviens, c'était vraiment. C'était du bricolage. C'est une bande de jeunes qui avaient envie de faire quelque chose super intéressant, de lier cinéma à foot, de trouver des docs et tout. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, vous avez maintenant de la crédibilité dans le milieu, vous arrivez plus facilement à trouver des films? Comment ça se passe en fait?
Vous étiez à Cannes par exemple?
Ah oui, bien sûr, on était à Cannes, forcément. Non, pour les films, on bosse beaucoup plus là-dessus effectivement, parce que de toute façon, on était limité d'entrée par la question du sous-titrage, et maintenant c'est quelque chose qu'on arrive à produire beaucoup plus facilement, ce qui nous permet de diffuser des films, typiquement cette année, polonais, ukrainiens, etc. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans la programmation.
Ouais.
Et après, on a réussi à ficeler un peu mieux le festival, forcément au bout de la sixième édition, on commence à être rodé. Et effectivement, en termes de
crédibilité, ça veut dire que ça marche, quoi. C'est
ouais,
sixième édition.
L'année dernière, typiquement, sur le taux de remplissage, on devait être à plus de 90%. Je pense qu'il y a quasiment toutes les séances étaient remplies. Donc certes, les jauges restent assez petite, mais malgré tout, on arrive à rencontrer notre public.
Il y a quoi au programme cette année?
Alors, au programme cette année, on est surtout sur du foot de l'Est, forcément, à quelques jours de
début
de
la Coupe du Monde.
Ah, j'aime bien ça, moi.
Ouais. Forcément. Ah, ça, c'est bien.
Tu vas y aller.
Ouais.
Va y aller. Donc, on a... clients, là, si tu lui files
un maillot. Est-ce qu'il y a le célèbre documentaire produit par Julie Gaillet sur le foot en Roumanie?
Non. Non, d'ailleurs c'est lequel.
Bah, c'est l'histoire de Starbit qui arbitrait un match Steaua rapide sous la neige,
match retour
qu'il fallait pas arrêter parce que le fils Ceaușescu avait dit on gagne aujourd'hui.
Ouais, c'est pour Poromboliu le réalisateur, c'est ça, match retour.
Il file un maillot DDDR ou CCCP à Gilbert, il vient direct en voir ça.
Mais...
Oh là là.
Vous ne vous intéressez pas à cette zone de l'Europe.
C'est
malheureux.
Très intéressant.
Et du coup en foot de l'Est cette année, on a trois films. Donc on a un film russe, c'est une fiction sur les qui s'appelle Okolo Futbola, qui veut dire logiquement à côté du foot, qui est devenu un terme maintenant qui est lié vraiment au hooliganisme en Russie, qui a été coécrit notamment par des hooligans russes, et donc ce qui fait que les images qui sont présentes dans le film et la représentation des hooligans est plutôt juste et vraiment assez poussée justement par rapport à une fiction. On a ce film russe, on a également un film ukrainien, un documentaire qui s'appelle Lobanovsky Forever, forcément sur Lobanovsky. Qui est vraiment très intéressant puisqu'il reprend forcément toute la carrière, notamment les 30 ans qui ont fait tout son succès, mais aussi sa carrière de joueur, où on apprend que le gars était plutôt fainéant. Au final, le gars était, il aime pas trop courir, ce qui est assez étonnant.
C'était surtout un énorme alcoolique, Lobanovsky, par
ailleurs. Ouais, mais ce qui est assez étonnant, que c'était à quelqu'un qui voulait pas courir, alors par rapport à tout ce qu'il a fait subir à ses joueurs derrière, c'est assez marrant, c'est comme petit clin d'œil.
C'est souvent le cas.
Ouais, là, c'est assez drôle.
Non, mais c'est vrai.
Mais on peut te dire ça comme ça, toi.
Bah, Vahid Halilhodžić. De l'Est aussi. Il aimait pas courir, Vahid. Il faisait, quand il était joueur, c'était un super joueur de football, mais, et les tours de terrain, il aimait pas ça.
Un petit peu,
Vahid. Un peu beaucoup même, je peux te dire. On me l'a expliqué. Par contre, depuis qu'il est coach, les mecs, ils courent. Ah ouais. Donc c'est souvent le cas.
Donc ouais, on a Lobanovsky Forever, forcément c'était obligatoire presque de parler de Lobanovsky. Le documentaire est vraiment bien, on a pas mal d'images d'archives et puis de conversations avec des entraîneurs comme Ancelotti par exemple, qui explique toute l'admiration qu'il peut avoir pour Lobanovsky encore aujourd'hui. Et on a également sur le même sujet donc un film polonais donc qui s'appelle Mondial au-delà du jeu et qui s'intéresse au parcours de l'équipe de Pologne en 82. Au moment de la loi martiale qui est en vigueur dans le pays, et donc le parallèle entre les difficultés que des gens et notamment des partisans de Solidarnosc dans le pays, qui étaient cantonnés dans des camps, enfermés dans des camps, et qui devaient vivre la Coupe du Monde à travers des écrans, et qui étaient partagés entre l'idée de est-ce que la Pologne doit réussir un beau parcours, et du coup ça va profiter au régime en place, ou est-ce qu'on est contre et en même temps on renie un petit peu nos principes simplement de spectateurs et de supporters de l'équipe nationale. Donc là il y a vraiment les deux
joueurs
côtés.
Étaient dans quel camp eux?
Bon, on sait pas trop justement, ils essayent de les partisans essayent de détecter un petit peu les signaux qu'ils pourraient voir.
C'est Boniek, il a toujours été un peu proche du pouvoir.
Bah Boniek, il s'était à ce moment-là pas vraiment, parce qu'il avait été suspendu dans la campagne de qualification juste avant, il a été suspendu par la fédération 6 mois parce qu'il s'était opposé justement à la non-présence de certains joueurs. Donc il avait été suspendu 6 mois, donc c'était quelqu'un qui était un petit peu entre deux.
Vous savez que Boniek, dans les histoires avec Obraniak et Perkis là qui ont joué avec l'équipe de Pologne et qui se sont fait quand même globalement insulter par toute la presse polonaise et tout. Boniek était derrière tout ça en fait. Boniek ne voulait pas de ces mecs-là.
D'accord. Ah, il voulait pas. Ouais, mais moi je comprenais sa position à partir du moment où le mec vient par opportunisme total. Alors je dis pas que c'était le cas pour Ludo et pour.
Bah si, c'est ce que tu es en train de dire.
Non.
Perkis au Brésil.
Non, je suis pas en train de te dire ça. Je dis si tu démontres que le mec vient uniquement pour parce que tu veux jouer une Coupe du Monde et par opportunisme. Ouais, moi, mais les sélections ce genre de raisons-là, j'ai toujours trouvé que ça n'avait aucun sens.
Exact.
Voilà.
Mais ça veut pas dire que les deux c'était le cas.
Ouais, c'est pour ça que je t'ai pas dit. Donc, que eux c'était le cas.
Mais ouais, mais lui il s'est mis en. Non,
mais Obraniak était venu nous en parler ici. Il racontait que ça lui a fait plaisir. Il nous avait raconté également qu'il avait eu des problèmes même en interne dans l'équipe. Que certains rechignaient à le voir venir. C'est une question intéressante. C'est-à-dire pourquoi tu joues pour l'équipe nationale? Par intérêt, parce que t'as envie de jouer pour l'équipe nationale, c'est important. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens libres. C'est comme pour l'histoire Rabiot. Il fait ce qu'il veut, il a pas envie, il vient pas. Mais après, il revient plus.
Voilà. Autre chose au programme?
Bien sûr. Donc là, c'était tout ce qui concernait le football de l'Est. Après, globalement, on a d'autres sujets. On va ouvrir le festival, donc, au Louxor le jeudi prochain avec un documentaire qui s'appelle The Workers' Cup, qui s'intéresse aux
très
conditions
cinéma,
de travail.
Le raconte, le Louxor, pour ceux qui connaissent pas,
c'est vraiment une très belle salle historique, de Paris. Nous, on est sur la deuxième salle, donc, qui est une très, très belle salle également et qui est vraiment, on est très, très heureux à chaque fois. C'est la deuxième année qu'on y est et on est très heureux de pouvoir y faire notre ouverture. Et donc c'est le film d'ouverture, donc c'est The Workers Cup qui s'intéresse aux conditions de travail des ouvriers qui travaillent justement pour la construction des stades au Qatar. Donc c'est une équipe qui a réussi à vraiment suivre des joueurs durant un tournoi justement qui concernait que les ouvriers et qui se sont infiltrés donc dans une équipe en particulier. Et donc on suit un petit peu les parcours de ces gens-là. Certains expliquent qu'ils sont venus au Qatar à la base parce que leur agent leur a dit qu'ils allaient devenir footballeurs professionnels. Et les gars se retrouvent là sans comprendre ce qu'ils font vraiment là, en espérant atteindre un club pro, mais avec très peu de chances que ça aboutisse. Et donc là, ce tournoi, pour certains, ça représente vraiment leur dernier espoir d'avoir une vie meilleure. Donc c'est assez fort. Et c'était surtout exclusif pour le coup, le fait d'être vraiment au sein même d'une équipe de ce type.
Et puis il y a le célèbre documentaire, enfin qui est déjà passé à la télé, je crois, sur le Beitar Jérusalem.
Il est passé sur Netflix.
C'est là que je l'ai vu.
Ouais, Forever Pure. Effectivement,
c'est une histoire incroyable.
Là l'actualité fait que c'est un sujet d'autant plus épineux. Mais effectivement, donc là c'est on suit le Beitar Jérusalem et tout particulièrement la saison 2013 durant laquelle ils ont intégré deux joueurs musulmans tchétchènes dans la.
Faut savoir que le Beitar Jérusalem c'est le club des ultra-orthodoxe juif, extrême droite israélienne.
Donc c'est exactement ça. Et donc là,
club entraîné par Luis Fernandez il y a quelques années.
Ouais, qui a eu des problèmes d'ailleurs après avec le président qui est un sacré personnage.
Il avait ramené Jérôme Leroy, Francis Lasser, adjoint.
Si je dis pas de bêtises, Gaïdamak.
Sacré personnage, Gaïdamak.
Là, il est dans le documentaire.
Il était bien entouré.
Et c'est assez incroyable, Gaïdamak, dans le documentaire. Effectivement, homme d'affaires russo-israélien, même avec la nationalité française, vraiment, il a 4-5 nationalités.
Trafiquant d'armes ou.
Angola Gate, il avait fait de la prison en France, il y a quelques années de cela. Et du coup, notamment, ce personnage assez incroyable de président. Donc, il explique clairement qu'il a utilisé le Beitar à des fins politiques. Lui, il a investi de l'argent en se disant, moi, tout ce que je veux, c'est être élu à Jérusalem. Il a recueilli 5% des voix, il n'a pas été élu, et à partir de ce moment-là, il a dit, moi je mets plus d'argent, c'est fini, et il a fait exprès donc de faire venir deux joueurs musulmans.
Tchétchènes.
Ouais, tchétchènes musulmans, pour justement foutre un bordel total dans le club. pour justement casser tout ce qu'il y avait, et ça a vraiment bien marché pour le coup, parce que ça, ça a été un sacré boxon. Et c'est assez impressionnant de voir la réalisatrice Maya Zinstein a suivi pendant un an tout le club, avec notamment, on voit des joueurs qui étaient adulés au début, comme Ariel Harouche, qui était le gardien qui joue maintenant à Chypre, parce qu'il était vraiment persona non grata depuis au Bétard, et qui au début est totalement adulé par les supporters. Et arrivé à la fin, vu qu'il a émis une espèce de soutien envers les joueurs musulmans, a été totalement mis de côté. Et donc les supporters l'ont vraiment pris en grippe et c'était fini pour lui. Donc, mais le documentaire est vraiment vraiment impressionnant pour le coup. C'est vraiment, moi je le conseille absolument.
Alors juste le principe du festival, donc il y a qu'une seule projection de chaque film. Donc faut pas la rater.
Ouais c'est ça. C'est 5€ la séance pour chaque film à part au Luxor où c'est sur invitation. Mais sinon à partir donc là le Luxor on est au 31 mai, à partir du 1er juin jusqu'au 3, on sera au point éphémère dans le 10e arrondissement. Mmh. Et donc là c'est 5€ la séance effectivement. L'idée c'est qu'aussi on est donc des films qui sont pour la plupart inédits. Donc à part Forever Pure, sinon je pense que la grande majorité ne sont pas passés en France. Et l'idée c'est d'avoir aussi un débat à l'issue de chaque projection d'une demi-heure avec des journalistes, différents intervenants qui vont justement parler du sujet et du film pour pouvoir un petit peu creuser le sujet qu'on a évoqué avec la projection.
Okay. Voilà, donc si vous voulez vous faire un week-end cinéma, foot et cinéma à Paris, si vous êtes parisien, vous êtes sur place et sinon venez
à Paris. Bien,
Bah merci. On espère vous y voir du coup.
On va déjà envoyer Gilbert.
Parce que moi j'ai revu les talents d'acteur de Jérôme il y a pas longtemps, j'ai revu le Marcel d'Or d'il y a quelques temps qui est dans l'UNFP. J'ai vu ça avant-hier je crois.
Ça date ça.
C'était avec
2005 je crois.
Avec Edouard Cissé, ouais, Alonso etc. Ouais. C'était quand même assez
Pauletta.
C'était assez dingue c'est Marcel d'Or de l'époque.
Ouais. Oh. Il y avait de l'autodérision. C'est les jours d'avant, ça. Aujourd'hui,
Simon, merci beaucoup. Donc la Lucarne, fin mai, début juin, à Paris. Le seul festival de foot, hein.
En France, exactement. Ouais, voilà, c'est ça.
Ça existe dans d'autres pays, ça
y a... Ouais, en Allemagne, ça fait 15 ans que ça existe. Il y en a dans pas mal de pays, mine de rien. Et en France, pour le coup, on est les seuls, pour le moment.
Donc, c'est quand au Luxor, là, tu dis?
31 mai. D'accord. Jeudi prochain.
Une semaine.
Bon. Ouais, 31 mai, 3 juin, si vous voulez.
C'est que 31 mai le soir.
De quoi?
On est dans l'after,
donc c'est normal.
C'est compliqué. Quoi. Nous, on est là, on est à l'antenne.
Mmh. Ouais, même, on a une séance italienne.
C'est jeudi prochain.
Ah, on a une séance italienne aussi le vendredi soir avec un documentaire. On avait voulu inviter notamment Simone Rovera, mais qui sera pris, évidemment, sur votre plateau, puisqu'il y a le match amical France-Italie.
En plus.
Et le vendredi soir. Pas sûr, il est en vacances, le gars. Donc
il est sur la sellette, là. C'est pas sûr qu'il soit là.
Messieurs, tiens, quelques infos. Tiens, reste Simon, tu vas faire le quiz dans quelques instants avec nous, si tu veux bien. J'ai 2-3 infos à vous donner avant ça. Vous dire que Xavi continue à jouer au foot. Il a re-signé au Qatar et il a 38 ans, le gars. Il a re-signé pour 2 ans.
Donc, au Qatar, Xavi peut jouer jusqu'à 52.
Peut-être. Ouais. C'est possible.
T'es titulaire en Qatar, Jérôme, toi, si tu veux.
Il y a un truc étonnant par ailleurs. Vous savez qu'à Clairefontaine, la parole à Clairefontaine dans le cadre de l'équipe de France est toujours très contrôlée. Mmh. Et aujourd'hui, l'entraîneur des gardiens est venu s'exprimer.
Ah, Franck Raviot.
On n'entend jamais l'entraîneur des gardiens.
Ah, surtout Franck Raviot.
Et là, Raviot, il arrive.
Personne connaît le son de sa voix.
Et en plus,
Bruno Martini, c'est le même.
Donc Raviot dit. On lui pose des questions sur les gardiens allemands. Les Allemands, Neuer, respect. Ter Stegen, ok, évolution linéaire. Puis après, rien. ce que dit Raviot. Trapp, il est pas titulaire, donc voilà. Et il a défendu Areola. Il dit, moi, je veux qu'Areola reste numéro 1 en club. Donc, en gros, il veut pas de Buffon, Raviot. Il dit, il a montré cette saison un gros potentiel, fort caractère.
Il a rien demandé à Raviot.
Il est venu en conférence de presse. Ah, donc, on l'a demandé. Donc, il a soutenu, avec conviction, Areola.
Franck Raviot est entraîneur des gardiens.
Il est très bien.
Voilà.
Sinon, Iniesta à Kobe, c'est officiel désormais. Et puis tout à l'heure, tu parlais de Vahid Ali Lodzik.
Ah, il est où Vahid?
Alors Vahid, il a toujours pas digéré.
Il
a toujours pas digéré de cette
fusion. Ma merde.
Il attaque la fédération et il demande pour réparer son honneur, dit-il. Il demande une condamnation de la fédération pour un yen symbolique.
Est-ce qu'on sait si à la fin, quand il s'est viré, il a dit « La vérité, j'ai vomi ».
Oui, c'est vrai qu'il disait ça.
Voilà, il doit vomir.
Ça, c'est quand Fiorez était parti.
Oui.
Ma merde, j'ai vomi.
Ouais. On ne sait pas s'il a vraiment
toute
vomi.
Toute la nuit. Non, il n'a pas vomi. Non. Ça, je peux te le dire, j'y étais, il n'avait pas la tête d'avoir vomi.
Dans quelques instants, le quiz.
Ma merde.
On revient tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Attention, un quiz de haut niveau qui arrive dans quelques instants. Bien sûr, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, mais aussi Simon Tanguy de la Lucarne et Lucie Bacon de Combini. Messieurs, dames, attention, j'ai une équipe Lucie Jérôme, une équipe Simon Daniel.
Les canets, le gang si des canets.
Allez, les canets.
On ne peut pas perdre.
Les canets, Simon, tu es supporter de quel club?
Bah, je suis breton, mais je suis fan du PSG depuis que je suis petit.
Donc on a un côté camp, puis un côté qu'on peut assimiler au PSG. Vous l'acceptez?
Ouais, ça me va très bien.
Allez. On accueille Brian. Brian, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Brian, tu choisis l'équipe Caen ou l'équipe PSG?
Je vais prendre l'équipe de Daniel, de Simon.
Très bien. Et on a Zinedine qui est là. Zinedine, bonsoir.
Bravo Zinedine.
Salut l'équipe.
Bravo
Zinedine. Zinedine, t'as choisi l'équipe canaise.
On va te
canaise.
Faire gagner Zinedine.
On va voir
ouais,
si
surtout
c'est
avec Jérôme. Hein.
Exactement. Ouais. À gagner, j'ai la super BD de Timothée Osterman, Football District chez Fluide Glacial. Je sais pas si vous jouez au foot en district, les gars, mais là, il y a tout, hein. Tous les histoires, les
quoi,
histoires les plus dingues du
foot
district. En district.
Ouais. Bah, file-le à Daniel.
Ouais. T'as jamais joué en district, toi?
Bah, non, mais Daniel, ouais. À district, quand même.
Oh. Attention. Premier quiz. Quiz de citation célèbre, ou pas. Enfin, citation grotesque, donc, attention. Je vous donne la citation et vous devez me donner l'auteur. Attention, ce ne sont que des citations véridiques. Hein. Il n'y a rien d'inventé. Qui a dit « Le PSG doit faire preuve d'humilité avec un grand U » Qui a dit
bah, le... Indice là, parce que là...
Le ah non, c'est trop facile. Le PSG doit faire preuve d'humilité...
Luis Fernandez.
Luis Fernandez, bien joué Daniel.
C'est, bien joué, Daniel.
Non, c'est trop facile avec un indice.
Ouais, non, mais alors là, écoute, moi je suis contre ce quiz de merde encore.
Un grand U.
Non,
c'est bon,
c'est des citations, tu vas être en avance.
Attends.
Non,
attends,
pas du tout, je ne connaissais pas.
Sortir des citations d'il y a 5-6 ans.
Attention, qui a dit mon retour en équipe de France, c'est un 380 degrés.
Ribéry. Nasri.
Benzema.
Un joueur très célèbre.
Zidane.
Bien joué, Brian.
Merci.
Zinedine, t'avais pas le droit, là.
Hein. Il me sort des trucs.
Non, Jean, je les sais pas plus que toi, celle-là.
Ouais, attention.
Arrête. Ouais, non.
Et Zidane, qu'est-ce imagine, c'est des citations d'il y a 10 ans.
Qui a dit tout ça parce que t'es mené 2-0. Je connais par cœur ta stratégie.
Non, ça m'énerve. Ça m'énerve.
Si, aide-le, là.
Qui a dit avec mon frère Jordan, on se connaît très bien.
André Ayou.
Ça a été Daniel.
C'est sûr.
Oui. Ça a été Daniel.
Bravo Daniel.
Ah, il a quand même dit avec mon frère Jordan, on se connaît très bien depuis mon plus jeune âge. C'est génial.
C'est drôle.
Attention. Qui a dit je pense à Roger Lemaire qui avait été seul dilapidé sur la place publique.
Santini.
Tibéri.
Dilapidé sur la place publique.
Aimé Jacquet?
Non, faut remonter à... Il est consultant sur RMC.
Manu Petit,
Daniel, bien joué.
Oh, Daniel.
Ah, mais
bravo.
C'est sûr que Manu est capable 4-0. De ses... Ouais, mais là, Manu est capable de ces phrases-là. Hein. Il est dit encore à l'antenne.
Qui... Alors attention, qui a dit... Premier indice, c'est un joueur allemand. Qui a dit, le football, c'est comme les échecs, seulement il n'y a pas de dés.
Oliver Kahn.
Thomas Müller.
C'est génial.
Oliver Kahn,
un
Ozil,
attaquant.
Götze,
Müller,
non, Klose,
Mario
Klose.
Gomez,
un attaquant
allemand,
Schürrle, Klinsmann,
un attaquant allemand Marco Reus. Très attaché au club de Cologne,
Podolski,
Daniel, bien joué.
Ah, j'allais dire Lidbarski, tu vois.
On en est à 5-0 quand même. Hein.
Je pensais que ce serait sur Caen, ce coup.
Ouais, parce que là, ils ont dit que c'était pour toi, en fait. Rappelle-toi, je vois pas le rapport.
Ouais, c'est vrai, en fait, pourquoi c'était pour Lucie
ouais, autre... C'est une connerie, en
fait. Non, parce qu'on a un deuxième quiz pour toi, attends.
Ah, mais dépêche-toi, parce que là, on est déjà 5-0, alors.
Qui a dit, je n'ai pas de rituel, juste des trucs que je fais habituellement.
Zidane, non?
Bénard pas.
Attention, Ribéry. Indice, ce joueur-là a joué une finale de Ligue des Champions contre Zidane. Il est même, je vais te dire, le plus proche de Zidane quand Zidane met sa fameuse reprise de volée contre le Bayern Leverkusen.
Oh là là, c'est qui?
C'est un coup,
c'est un Makelele.
Mais non, c'est un joueur. Mais non.
Balak. Balak, bien joué, Simon.
T'avais
un joueur
allemand?
C'est sûr, un joueur allemand.
Ah, j'avais pas entendu.
6-0 quand même.
Bien joué.
Ah, il avait 10 joueurs allemands.
6-0. Attention facile, qui a dit, attention à l'Uruguay. Je me souviens qu'on a fait 0-0 contre eux à l'Euro dernier.
Ribéry.
Petit.
Ramayad. C'était sur RMC. Ramayad.
Celle-là, je la prends pas parce que je la connais. C'est une phrase historique et je suis
bon. On la compte pas.
Mais ouais, c'est fair play. Quand c'est des phrases qu'on connaît, je les enlève.
Qu'est-ce que t'es bon?
Tu mènes 6-0. Bien sûr que t'es fair play maintenant. Bah ouais, c'est open bar.
attends.
Bon, ce premier quiz,
c'est quand même compliqué d'être mauvais joueur comme lui.
Ah non, mais là ce soir il est particulièrement mauvais.
Franchement, Jérôme, t'es insupportable quoi. Quand à chaque fois j'ai été comme ça. Quand ce sont des phrases où je sais que j'ai l'avance sur toi là-dessus, je te les rends toujours les points. Celles d'avant, c'est pas des phrases qu'on connaissait. Je suis désolé.
Attention, on cherche un joueur qui a failli jouer à Nancy, mais qui surtout a brillé au Portugal. Il a dit, j'adore les avant-matchs, je sens toujours la naphtaline monter en moi.
Non, mais
un joueur portugais.
Brésilien, il est brésilien.
Ah, brésilien.
Il a failli signer à Nancy. Il est en fin de carrière.
Brésilien.
Ouais. Il a brillé au Portugal pendant des années. Il a marqué des tonnes de buts.
Ah, Jardel.
Jardel.
Ah, putain,
Mais je suis avant.
Bah oui, c'est toi.
Bravo, Daniel.
6-0. Bah ouais, cette fois, on y est au 6-0. Et puis, alors, une petite dernière, comme ça, pour la route. Un attaquant international français qui a dit,
Benzema.
Quand on joue vers l'avant, on recule moins.
International français.
Ouais, prénom Frédéric.
Frédéric Piquion.
Piquion, Simon, bien. Ouais, 7-0.
Putain, moi, je les ai, mais.
Lucie, elle ne sert absolument à rien sur ce quiz, c'est une catastrophe.
Mais c'est des citations d'il y a 30 ans, quoi.
Allez, on passe au quiz spécial pour Lucie.
Oh là là.
Donc, voilà, Lucie est notre invitée ce soir, Lucie Macon.
J'ai l'impression.
Donc, il y a 7-0, là. Donc, ça va.
On a fait un quiz foot and food.
Oh putain.
Mais pourquoi ce serait pour elle?
Bah, parce que. Bah, tu fais des blagues depuis le début.
Bah oui,
c'est vrai.
Je vous donne deux indices.
La remontada.
Attention, il y a 7-0.
On part de loin.
La remontada, c'est possible. Attention, je vous donne deux indices, vous me trouvez un joueur. Consultant RMC, marque d'épices, herbes et recettes de cuisine.
Le bœuf.
Pierre Ducrot.
Pierre Ducrot. Oh oui, il est là, Zinedine.
Ah ouais,
7-1. Mais oui,
je suis dans la team roquette ce soir.
7-1, bien joué, attention.
C'était pas 2 points celle-là?
Non.
Si, 3, il avait dit.
Attention, si je vous dis fruits comestibles à coque et ancien arbitre international français. Spécialité de Grenoble.
La noix.
La noix.
La noix, bien sûr, Jérôme. La remontada est en marche. 7-2.
Voilà, la noix.
Attention, deux indices.
Ça y est,
si je vous dis,
parti.
Plante potagère dont le bulbe est comestible, joueur et entraîneur de Nancy.
Coréa,
c'est une plante potagère.
Vincent Rognon. Ouais.
Bien joué, Zinedine.
C'est Brian.
8-2.
Vincent Rognon, il était entraîneur à Nancy.
Bah voilà, c'est.
Vas-y, dépêchez.
Vas-y.
Attention, si je vous dis gardien d'Auxerre, commerçant qui vend de la viande.
Martini.
Coqueux.
Boucher.
Zachary Boucher, Lucie, bien joué, évidemment. Qui c'est qui vend du bacon? Un boucher?
Charcutier
peut-être, ouais, t'as pas tort.
Ouais, ils font les deux maintenant. Ouais.
Elle est avec qui, Lucie?
L'équipe cannaise. Et puis si je vous dis fruits de mer, dont l'aspect fait penser à un escargot, ancien joueur de Monaco et de Caen. Actuellement à Tours.
Bergouille. Ouais. Non, rien à voir.
Non. Actuellement à Tours.
Franchement, je comprends même pas le truc.
C'est quoi?
Un ancien joueur de
Frédéric.
Frédéric
Bulot.
Tu allais chercher l'autre. Et t'as pas un dernier pour qu'on fasse un qui tout double? Ils sont joueurs.
Ouais.
Qui tout double, c'est le dernier?
Mais moi, ça en l'air pour Brian, parce que
il faut
vraiment,
que ce
ça,
soit Brian.
Nul, là, ça,
si Brian, il est prêt à faire tapis.
Ouais, c'est parti.
Allez, les joueurs, les joueurs.
Tapis. Je rappelle que ce quiz foot and food a un rapport avec la nourriture.
Là, on les tue comme ça.
Attention.
10 000 euros, Jérôme.
Un seul indice. Mauvaise cuisson.
Kevin Malcuit.
Et c'est Zinedine qui gagne la BD. Voilà, bravo Zinedine. Fallait pas faire tapis.
Je pensais qu'il y aurait
un
le bœuf.
Ouais. Bah oui, le bœuf,
ouais.
Trop facile.
Je vous ai pas donné la déclaration de Patrice Evra dans le premier quiz. Dans le premier quiz, Evra avait quand même dit, il faut rendre César à César.
Bah oui. Pourquoi pas?
Et puis il y avait Laurent Blanc aussi, il avait dit, ce n'est ni l'endroit, ni le lieu de parler de tout ça.
Ah, tu l'avais dit, Laurent Blanc. Hein.
C'est génial. C'est génial, les footballeurs.
Qu'est-ce qu'ils sont cons.
Messieurs, c'est fini pour ce soir. Deux petites choses. Demain, le Super Moscato Show est à Lyon, demi-finale du Top 14 avec plein d'invités. Et Didier Deschamps est avec Captain Larquet demain soir à 18h sur RMC.
Ah,
donc c'est un événement. La dernière grande interview de Didier Deschamps avant le mondial, c'est demain avec Captain Larquet.
Bizarre que ce soit pas avec Dugas. Ah non, c'est vrai.
Bah non, c'est avec Jean-Michel. Bah ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est demain soir sur RMC à 18h. Merci Lucie d'être venue.
Merci pour l'invitation.
À très vite.
À très vite.
Simon, bon festival.
Merci.
Il y a un tapis rouge?
Bah bien sûr. Non, il y a des tapis en herbe, donc c'est forcément
pelouse synthétique.
Classique.
Tapis rouge super. On sort la soirée.
Si Jean Bretagne vient, est-ce que tu lui offrais les pop-corn?
Bien sûr.
Salut,
bien sûr, évidemment.
Je peux pas là, je suis tellement bien svelte, franchement je te...
C'est fini pour ce soir, l'after sera là bien sûr dès demain et bonne nuit à tous.
RMC, le super football show, l'after foot.